Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans la Finlande, dans la Seconde Guerre mondiale, 1938-1948. L'historien Louis Clerc étudie la trajectoire d'un État démocratique placé entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Cet essai d'histoire politique et diplomatique couvre une période plus large que les combats eux-mêmes. Il part des tensions de la fin des années 1930 et s'achève avec le traité bilatéral conclu avec Moscou en 1948. Le livre articule les trois séquences qui structurent l'expérience finlandaise la guerre d'hiver contre l'URSS. La guerre de continuation menée dans le contexte de l'offensive allemande à l'Est, puis la difficile stabilisation de l'après-guerre. Son objet n'est donc pas seulement militaire. Clerc examine les contraintes géographiques, les marges de décision des dirigeants, les fractures et ressources de la société finlandaise, ainsi que les enjeux moraux liés à la coopération avec l'Allemagne. Il propose ainsi une lecture nuancée d'un pays qui parvient à préserver son indépendance, mais au prix de compromis, de pertes et d'une adaptation durable à la puissance soviétique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la guerre d'hiver, une résistance réelle, mais ni miraculeuse ni victorieuse. La guerre d'hiver, déclenchée par l'invasion soviétique de novembre 1939, occupe une place centrale parce qu'elle a durablement façonné l'image internationale de la Finlande. Face à un adversaire immensément plus puissant, l'armée finlandaise oppose une résistance qui surprend l'Europe et révèle les faiblesses initiales de l'armée rouge. Louis Clerc ne réduit toutefois pas cet épisode au récit flatteur d'un petit pays triomphant grâce à son courage, au froid et à sa connaissance du terrain. Il restitue le caractère très précaire de la situation finlandaise, les succès défensifs n'effacent ni l'infériorité matérielle, ni les limites de la mobilisation, ni l'épuisement progressif des capacités militaires. La paix de Moscou de mars 1940 maintient l'indépendance nationale, mais impose des concessions territoriales importantes et laisse le pays dans une position stratégique fragilisée. Cette précision est essentielle pour comprendre la suite. L'entrée dans la guerre de continuation ne découle pas d'une simple sympathie envers Berlin. Elle s'inscrit aussi dans le traumatisme de la défaite et dans la recherche d'une protection contre une nouvelle pression soviétique. Le livre montre ainsi comment une victoire symbolique peut coexister avec un échec militaire et diplomatique partiel. Deuxièmement, combattre avec l'Allemagne sans se fondre dans le camp nazi. À partir de 1941, la Finlande combat l'Union soviétique parallèlement à l'Allemagne lors de la guerre de continuation. Cette situation est l'un des problèmes historiques les plus délicats traités par Louis Clerc. Il importe de ne pas confondre coopération militaire et identité politique, la Finlande reste une démocratie parlementaire et ne devient pas un État nazi. Mais elle participe concrètement à une guerre menée dans le cadre élargi de l'invasion allemande de l'URSS. L'auteur éclaire donc une politique de rapprochement dictée par le désir de récupérer les territoires perdus et par l'isolement d'un pays confronté à son voisin soviétique. Cette rationalité stratégique ne supprime pas les responsabilités ni les ambiguïtés de ce choix. La Finlande dose son engagement, notamment en refusant de s'engager pleinement dans certaines opérations recherchées par l'Allemagne, ce qui souligne l'existence d'objectifs propres. Mais elle ne peut être décrite comme extérieure au conflit germano-soviétique. Cette distinction permet d'éviter deux simplifications opposées, faire de la Finlande un satellite idéologique du Reich, ou présenter son alliance de fait comme une neutralité armée. Clerc met au contraire l'accent sur les contraintes, les calculs et les conséquences d'une autonomie incomplète. Troisièmement, une histoire nationale où diplomatie, géographie et politique intérieure sont indissociables. L'originalité de l'ouvrage tient à son refus d'isoler les campagnes militaires de leur environnement politique et social. La Finlande est étudiée comme une société confrontée à une guerre longue, ses responsables doivent arbitrer entre défense du territoire, cohésion institutionnelle, économie de guerre, relations extérieures et attentes de la population. Le poids de la géographie est déterminant. La proximité de l'Union soviétique rend toute décision susceptible d'avoir des effets existentiels, tandis que la position périphérique du pays par rapport aux principaux centres européens de décision lui ouvre parfois des marges de manœuvre particulières. Louis Clerc ne transforme pas pour autant cette situation en déterminisme. Les dirigeants finlandais font des choix, mais ces choix sont effectués dans un espace très restreint, entre des puissances dont les objectifs excèdent largement les intérêts d'Helsinki. L'attention portée aux mouvements politiques, aux minorités et aux équilibres internes rappelle également qu'un État ne mène pas une guerre comme un bloc homogène. Cette approche explique pourquoi la survie de la démocratie finlandaise ne dépend pas uniquement des opérations militaires. Elle repose aussi sur la capacité des institutions à conserver une légitimité, à absorber les conséquences des revers et à adapter la stratégie nationale sans rompre entièrement le lien avec la population. Quatrièmement, la question juive et les limites morales du récit d'exception finlandais. Le livre aborde un sujet souvent éclipsé par l'image d'une Finlande démocratique résistant à l'agression soviétique, le traitement des Juifs et les compromis liés à la proximité avec l'Allemagne nazie. La situation finlandaise ne se confond pas avec celle des régimes collaborateurs d'Europe occupée. Les citoyens juifs finlandais ne font pas l'objet d'une politique d'extermination nationale et certains servent même dans les forces armées. Cette singularité institutionnelle mérite d'être établie car elle distingue nettement le pays de l'univers racial et génocidaire du Reich. Elle ne permet cependant pas d'effacer les zones d'ombre. Des juifs étrangers furent livrés aux autorités allemandes avec des conséquences mortelles. En intégrant cet épisode à une analyse plus générale de la société et de la diplomatie de guerre, Louis Clerc évite une histoire nationale uniquement héroïque. Le point important n'est pas d'annuler la différence entre la Finlande et l'Allemagne, mais de montrer qu'une politique de préservation de l'État peut comporter des décisions humainement et moralement graves. Cette dimension renforce la valeur analytique de l'ouvrage L'indépendance finlandaise. La continuité démocratique et la résistance militaire ne constituent pas des absolutions globales. Elles doivent être évaluées avec les accommodements, les exclusions et les responsabilités produites par le contexte de guerre. En dernier lieu, de la paix de 1944 au traité de 1948, construire une indépendance sous contrainte soviétique. La période finale démontre que l'histoire finlandaise de la Seconde Guerre mondiale ne s'arrête pas avec la cessation des combats contre l'URSS. Après l'offensive soviétique de 1944 et la sortie du conflit, la Finlande doit accepter une paix difficile, puis combattre les forces allemandes encore présentes sur son territoire. S'ouvre alors une phase de reconstruction diplomatique dans laquelle l'enjeu majeur est de préserver le régime parlementaire et une souveraineté effective sans provoquer Moscou. Le traité de paix de Paris de 1947, puis le traité d'amitié conclu avec l'Union soviétique en 1948, encadrent ce nouvel équilibre. Clerc replace ainsi les origines de ce que l'on appellera plus tard la finlandisation. Dans l'expérience immédiate de la guerre, une neutralité prudente n'est pas seulement une doctrine abstraite, mais une réponse à un rapport de force durablement défavorable. Le choix soviétique de ne pas imposer une transformation communiste complète du pays compte également. De même que la faiblesse relative des communistes finlandais dans le jeu électoral. L'intérêt de cette conclusion chronologique est de relier la survie nationale au compromis de l'après-guerre. L'indépendance est conservée, mais elle devient inséparable d'une vigilance constante envers les intérêts de la grande puissance voisine. En conclusion, la Finlande dans la Seconde Guerre mondiale 1938-1948 s'adresse en priorité aux lecteurs d'histoire contemporaine qui souhaitent sortir d'un récit centré sur les grandes puissances, sans renoncer à une analyse rigoureuse des choix politiques. Il sera particulièrement utile à ceux qui connaissent la guerre d'hiver, mais ignorent la guerre de continuation, la lutte contre les troupes allemandes à la fin du conflit ou l'installation de la neutralité finlandaise après 1945. Les lecteurs intéressés par les relations entre petits États et grandes puissances y trouveront aussi un cas d'étude concret. La souveraineté ne s'y présente jamais comme une donnée acquise, mais comme le produit de décisions prises sous une pression militaire et diplomatique extrême. L'ouvrage se distingue des histoires strictement militaires par l'ampleur de son cadre. Les opérations sont nécessaires à l'intelligence du récit, mais elles sont replacées dans les institutions, les rapports sociaux, l'économie, les minorités et les débats de politique extérieure. Cette méthode évite autant l'héroïsation automatique de la résistance finlandaise que la réduction de la période à la seule alliance de fait avec l'Allemagne. La clarté attribuée à l'écriture de Clerc sert un sujet complexe, fait de guerres successives, de défaites limitées, de compromis et de responsabilités morales. Par son arc chronologique allant de 1938 à 1948, le livre montre enfin que la guerre transforme durablement la place de la Finlande en Europe. Il offre donc moins une chronique nationale qu'une réflexion documentée sur les marges de manœuvre d'une démocratie frontalière face aux empires. Si vous souhaitez soutenir Louis Clerc, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.